L'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, c'est ce soir un retour puisque l'édition 2024 avait été annulée en raison de la crise insurrectionnelle. 8 candidates seront sur la scène du Méridien pour tenter de décrocher le diadème. Le salon Nature Maison Déco souffle ses 10 bougies cette année au Parc Fayard. Un événement avec près de 80 exposants présents. Reportage à suivre dans cette édition. Le beau succès pour la matinée, portes ouvertes du CFA de la CCI, un temps fort qui marque une étape importante en cette période d'inscription pour la rentrée 2026. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, en déplacement à Clermont-Ferrand, une ville rattrapée par une explosion de la violence sur fond de narcotrafic. Il y a 700 jours, le Hamas menait une attaque sans précédent contre l'État d'Israël. L'organisation terroriste islamiste retient 47 otages à Gaza. Une vidéo de deux d'entre eux a été diffusée cette nuit pour nous. Le sport, l'équipe de France a bien débuté sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde de football 2026. Les Bleus affrontent à l'Ukraine ce matin, ils se sont imposés 2-0. Et puis du football en Calédonie avec les quarts de finale de la Super League. Cet après-midi, Gaïcha s'est imposé 3-2 après prolongation sur la SLC. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, au chapitre des faits divers, cet incendie d'une maison et de ses dépendances, c'était en début d'après-midi au Mont d'Or Sud. Les habitants étaient sur place, ils ont essayé d'éteindre les flammes, mais en vain. Les pompiers ont été appelés, mais malgré une intervention rapide des soldats du feu, l'ensemble des bâtiments ont été totalement détruits. L'origine du sinistre est encore inconnue. Une enquête a été ouverte. Les habitants de la maison ravagée par les flammes seront relogés dans leur famille ce soir. Le retour des Miss, le concours Miss Nouvelle-Calédonie 2025, c'est ce soir et c'est au Méridien. Un événement très attendu alors que l'édition 2024 avait dû être annulée, Kalinda Boako, en raison de la crise insurrectionnelle.
Elles seront 8 candidates à défiler sur la scène du Méridien pour tenter de décrocher le diadème tant convoité et succéder à Emma Grousset qui est restée l'ambassadrice de beauté durant 2 ans. Le public découvrira les 8 créateurs locaux qui vont sublimer les candidates. Ils se sont inspirés du thème de l'année, naturel. Cette année, les critères de sélection ont évolué, ce qui a permis l'inscription de jeunes mères de famille ou encore du critère d'âge.
Oran Bosch, je vais avoir 18 ans en octobre. Pour moi, être une Miss, c'est pouvoir représenter son pays correctement, mettre en valeur, par exemple, chez nous, les jolies plages. Parce qu'en vrai, quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, on parle beaucoup de Nouméa, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi la Brousse, c'est aussi la Foy, c'est aussi Bouraille, c'est aussi Koumac. Et comme j'ai grandi à la fois, pour moi, c'est aussi important de parler de ça, de parler de la Brousse, des belles plages qu'il y a là-bas, de tout ce qu'on peut découvrir là-bas. Et donc pour moi, le rôle de Miss, c'est de représenter correctement sa région.
Tiaou, Dolores, j'ai 28 ans. Je suis maman d'un petit garçon. Le critère d'âge, j'étais pas au courant qu'il avait changé. Et avant d'avoir 30 ans, en fait, je me suis dit, bon allez, je vis l'aventure, vraiment pour l'aventure. Pouvoir représenter sa communauté, l'endroit d'où tu viens, et c'est une image extérieure, une voix en plus que tu peux apporter.
Lila Grace Prévost, j'ai 21 ans. Eh bien, j'ai voulu participer au Miss d'un côté parce que pendant trop longtemps, je n'ai pas osé prendre la parole. J'avais trop peur de m'exprimer. Ce concours, c'est ma manière de transformer cette peur en force, de représenter les autres personnes qui ont eux aussi peur de prendre la parole et de s'exprimer.
Safi Hélène Cugnou, donc j'ai 33 ans et je suis la doyenne de la promotion Miss Nouvelle-Calédonie 2025. Comme beaucoup de filles, ça a été un rêve de petite fille et c'est vrai que depuis que la limite d'âge a été levée, ça a été pour moi un tremplin et je me suis dit, allez, cette année, il faut que j'ose sortir de ma zone de confort et que je fasse quelque chose d'extraordinaire et je me suis inscrite.
À travers les tableaux scéniques, Karine Richer-Raguin, la directrice artistique du spectacle de l'élection, a créé le spectacle autour de la thématique choisie par le comité Miss Nouvelle-Calédonie. Pour certaines candidates, c'est une occasion unique de se présenter à l'élection de Miss. Pour d'autres, c'est la deuxième fois.
Eugénie Marceau, j'ai 24 ans. Et une petite particularité, il y a 3 candidates à cette élection qui sont des premières fois. Il y a la première trentenaire, la première maman, et moi je suis la première à faire une deuxième fois l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Pour moi, une Miss, c'est vraiment de mettre en avant des valeurs et surtout d'être authentique. Parce que pour moi, tous les messages commencent par là. Il faut être vrai, il faut être honnête et sincère. Et c'est dans la sincérité qu'on va pouvoir mettre en avant certains messages, certaines causes qui nous tiennent à cœur et qu'on juge importantes à mettre en avant.
Juliette, j'ai 22 ans. Je suis super fière de faire partie de cette promotion qui est totalement diversifiée et qui représente bien notre pays. Je me suis dit, bah pourquoi pas, en fait, on n'a qu'une vie, autant saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. C'est une expérience, je pense, unique qui s'offrira qu'une seule fois à moi. Donc je me suis dit, allez, C'est parti, pourquoi pas.
Fanny Palmieri, j'ai 18 ans. Si j'ai voulu me présenter, c'est parce que je trouve que l'expérience des Miss, elle est extrêmement enrichissante. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à développer et je trouve ça vraiment génial et on peut défendre des causes assez importantes pour le pays, surtout en ce moment. Donc c'est pour ça aussi que je voulais participer.
Marine Fausture, je suis âgée de 18 ans. Je suis super contente de participer à Miss Nouvelle-Calédonie. J'ai voulu candidater parce que pour moi, j'ai toujours été timide dans ma jeunesse. C'est un défi personnel afin de vaincre ma timidité. C'est un combat et c'est pas facile tous les jours.
Le concours se déroulera en présence de la Miss France 2023, ancienne Miss Guadeloupe, Indira Bompio. Le comité Miss Nouvelle-Calédonie rappelle que le numéro pour voter pour la candidate de son choix est le 4008. La grande gagnante partira représenter le territoire lors du grand concours Miss France en décembre prochain.
À Dimbéa, l'événement du week-end, c'est le salon Nature, Maison et Déco. Il s'agit de la 10e édition de ce rendez-vous qui a pris ses quartiers au parc Fayard, Michael Juneski.
Oui, un rendez-vous qui se déroule dans un cadre idéal sur la commune de Dimbéa, même si les caprices de la météo ont donné quelques craintes aux visiteurs aujourd'hui. La fréquentation est tout de même restée constante ce samedi, alors que le salon se poursuit encore demain. Ceux qui ont fait le déplacement ont pu trouver de nombreuses choses, les plantes en point d'orgue et notamment sur le stand d'Audrey de la Pépinière, le jardin aux mille fruits.
C'est un peu notre cœur de métier, c'est justement d'amener de la diversité dans les jardins, notamment au niveau des arbres fruitiers, et de permettre d'avoir des fruits toute l'année, surtout en dehors de la période de fructification habituelle que sont le début de l'année avec les mangues, les litchis, de pouvoir avoir des fruits tout au long de l'année.
Quelques exemples très exotiques qui vont donner des idées aux gens.
Oui, bah on fait notamment en ce moment, on est sur la belle saison de l'abiou, qui est un fruit qui vient de l'Amazonie, qui est un fruit qui est très frais, très agréable et qui a un goût de crème anglaise, crème vanillée. On a du sochang, qui est un fruitier qui vient du plateau himalayen. Ça, c'est un fruit qui ramène beaucoup aux souvenirs d'enfance pour les Calédoniens. Ça goûte beaucoup le jamelon. C'est un petit peu acidulé, c'est un très bon fruit de transformation, mais on a beaucoup de choses aussi. On a du biriba, on a du pitangatuba, on a du chérimoya, du rambutan, de l'icaquier, de l'abricotier des Antilles. Bref, un large choix de fruitiers. On a plus de 70 variétés de fruitiers.
Autre trouvaille pour maximiser les chances d'offrir une belle vie à ces plantes, la qualité du sol et les apports biologiques qu'on peut fournir aux végétaux. C'est un domaine dans lequel s'est spécialisé Philippe Deschamps d'Epsilon Agriculture à Boulou-Paris.
Ex-chimiste mathématicien et que je me suis lancé dans l'agriculture il y a 5 ans. De par ma formation, je sais ce qu'on peut faire en chimie et moi je vais sortir le côté chimique de la nature. C'est-à-dire, les gens quand ils grandissent, on leur dit « il faut que tu manges du calcium pour tes os, c'est bon voilà. ». Donc moi je vais extraire le calcium des os de boucherie par calcination, donc c'est un principe de combustion qui se fait à 1200 degrés. On obtient une calcination calcaire. Donc tout ça, c'est la même base et on va utiliser ça comme amendement pour nos plantes. Donc, on va améliorer la structure et la texture du sol. Moi, je pars de la racine jusqu'à la fabrication du fruit. On propose bien sûr du paillage sous différentes formes. Le paillage bois qui, lui, va amener de la lignine. La lignine est dégradée essentiellement par les champignons. Du paillage paille, ben là, c'est de la cellulose qui, elle, est dégradée par les bactéries. Donc, on va rétablir un équilibre champignons-bactéries dans notre sol et la plante va en profiter le mieux possible.
Voilà quelques exemples de ce qu'on peut trouver sur ce salon nature, maison et déco. Un événement avec près de 80 exposants présents. On retrouve encore sur place l'essentiel des plantes, de l'outillage, tout ce qui touche au jardinage, mais aussi de nombreuses idées décorations, sans oublier la présence d'artisans locaux. Et puis, des animations également de la partie. Un salon qui continuera demain encore de 8h à 17h au Parc Fayard.
Allez, retour sur Nouméa avec la fête du sport aquatique ce samedi matin. Rendez-vous, Mickaël, qui a trouvé son public.
À la piscine du Wentoro, de nombreuses disciplines aquatiques proposées, les choix variés, les classiques, natation plus insolite, la natation artistique, le water polo ou encore le hockey subaquatique. Kevin Merlet est le président du club de hockey subaquatique de Nouméa.
Ça permet de montrer l'activité aux gens qui n'ont pas l'habitude de nous voir, parce que nous d'habitude c'est le soir. Donc là en pleine journée, ça permet de faire découvrir la discipline. Donc nous on est à la piscine du CNC le lundi soir et le mercredi soir de 20h à 21h30. Donc c'est un sport co en apnée dans une piscine, en palme masquée tuba avec des petites crosses et un palais qui fait 1,3 kg qu'on se partage. Et l'équipe qui marque le plus de buts a gagné.
Aujourd'hui les initiations, ce qu'on peut découvrir, c'était quoi les retours?
Alors les retours, c'est quand même un peu cardio. Ce qui est compliqué, c'est justement d'un sport co où on peut pas se parler, donc on peut pas corriger la position des joueurs et tout ça, mais on voit la différence en une demi-heure, comment ils évoluent. Au début, c'est très brouillon, c'est je prends le palais, j'avance tout droit, et au bout d'une demi-heure, c'est je commence à regarder ce qui se passe et faire des passes à mes coéquipiers. Mercredi, on essaye de refaire une soirée spéciale à la piscine CNC pour justement que les gens puissent vraiment découvrir l'activité dans le vrai bain.
Cette opportunité de découvrir ou redécouvrir différents types de disciplines sportives a attiré le grand public. Vivien Chaillet est le chef de section des piscines de Nouméa.
On est vraiment content de l'impact que ça a eu. On a vraiment eu du monde de présent. Ça répond vraiment à nos attentes. On crée ce genre d'événement, la fête du sport aquatique, pour aussi que le tissu associatif qu'utilisent les structures municipales puisse aussi s'exprimer. Donc vraiment, ce genre de démarche pour nous, elle est très importante, et ce qu'on cherche vraiment, c'est à ce que les administrés puissent venir s'informer, s'initier, et s'il y a un coup de cœur, s'inscrire et auprès des associations. Et nous, ça permet aussi de faire exister la structure municipale qui est mise à disposition pour les associations également tous les jours. On est ravis de l'événement.
Et à l'occasion de la fête du sport aquatique de la ville de Nouméa, l'entrée dans les centres aquatiques de Magenta et du Wentoro était gratuite pour tous ce samedi matin.
Cette info pratique à présent avec le report du vide-grenier du centre-ville qui était prévu demain dimanche sur la place des Cocotiers. Écoutez les explications d'Aurélie Oduro, c'est la chef de service animation de la ville de Nouméa.
Le vide-grenier est reporté du coup au 21 septembre dû à une météo incertaine. Le choix du 21 septembre s'est fait parce que du coup on a le carnaval qui se passe le 13 septembre. Donc aussi pour des raisons d'organisation, c'est pour ça que ça a été décalé au 21. En général, le vide-grenier, on le décale quand en cas de mauvaise météo. C'est vrai que le vide-grenier, on le reporte souvent à la semaine suivante. Ça aurait dû être reporté au 14 septembre. Mais voilà, en raison du coup du carnaval qui se fait le week-end d'après, on a fait le choix quand même de le reporter et non de l'annuler et de le reporter du coup au 21 septembre.
Aurélie Oduro a joué au téléphone il y a quelques minutes par Mickaël Juneski. Notez que les réservations de stands resteront valables pour cette nouvelle date. Les exposants pourront toutefois demander un remboursement. Pour plus d'infos, vous pouvez contacter le Centre d'Art. C'est au 25 07 54, le 25 07 54. Bilan positif pour la matinée portes ouvertes du CFA de la CCI. Futurs étudiants, lycéens et parents étaient invités à découvrir les formations, les programmes, mais aussi à rencontrer la direction, les équipes pédagogiques et les étudiants. Et ils étaient nombreux ce matin à s'informer sur les BTS proposés.
On est venu en famille, en tant que papa. Je voulais accompagner mon garçon pour qu'il puisse voir ce qui existait en BTS, en alternance. C'est positif, ça donne beaucoup d'informations aux jeunes et ça les accompagne dans leur projet professionnel. À chaque étage, il y avait différentes filières et que du coup, le jeune qui est à la recherche d'une orientation trouve ses réponses et peut voir les informations nécessaires pour pouvoir s'ouvrir vers le BTS qui lui conviendrait le mieux pour lui dans son avenir.
Ça m'a appris beaucoup de choses et ça me donne envie d'en sortir un BTS. Dans l'alternance, t'as divers possibilités et que quand tu vas en cours, il y a une bonne ambiance et que ça donne envie d'y aller, quoi.
Alors quand tu es venu, t'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire?
Non, j'avais pas trop d'idées. Et puis là, ce qu'ils m'ont dit, ça me donne l'envie d'aller dans certains BTS, mais faut que je revends, quoi.
Je suis venu jeter un coup d'œil aux formations et aux BTS proposés à CCI. J'avais une idée, mais ça m'a conforté dans ce que je voulais faire. BTS GPME, gestion petite moyenne entreprise. On a fait des petits ateliers, découvrir comment on faisait une fiche de paye. Bon, ça, je savais déjà comment on faisait, mais fiche de salaire, facture, la relation avec les clients, etc. Enfin, pas mal de choses.
Et pour David Leclerc, le directeur des écoles de la CCI, ces portes ouvertes ont permis de répondre aux interrogations des étudiants, mais aussi, bien sûr, des parents.
On est sur un bilan qui est plutôt positif avec plus de 200 personnes qui sont déjà venues nous rencontrer les anciens, rencontrer les alternants eux-mêmes, les formateurs et l'équipe, avec une présentation de toutes les formations. Et on a un public qui est satisfait, qui peut découvrir toutes les formations grâce à des ateliers, des petits tests, des quiz et surtout échanger avec les alternants qui sont présents pour savoir comment fonctionne l'alternance, comment faire pour l'intégrer et les petites aides, les petits tips MIPS pour faciliter l'intégration au sein du CFA. En plus, les alternants ont fait un petit questionnaire de satisfaction qui permet d'avoir un retour en live. Et là, les gens sont très satisfaits en tout cas de ce qu'il leur est proposé et ça répond en tout cas à leurs interrogations.
La première campagne de préinscription pour la rentrée 2026 du CFA de la CCI est en cours. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour candidater. Dans l'actualité ce soir également, l'exposition Lire, écrire, dessiner, vivre est à découvrir à la bibliothèque Bernheim. Exposition qui s'inscrit dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Ce projet collectif et solidaire a réuni les apprenants et bénévoles de la Croix-Rouge engagés dans la lutte contre l'illettrisme. Pour Solange Payandi, la directrice de la bibliothèque Bernheim, cette exposition est une étape d'un partenariat avec la Croix-Rouge.
C'est une étape dans le partenariat que nous avons mis en place avec la Croix-Rouge autour de différentes actions. C'est une exposition qui est issue d'un livre qui a été réalisé par des apprenants de la Croix-Rouge. Donc la particularité, c'est que absolument tout a été fait par ces apprenants, c'est-à-dire aussi bien l'écriture des textes que leur illustration, donc sous la houlette de Gabrielle Embrim, une artiste qui les a accompagnés. Après cela, il y a eu le travail de reliure qui aussi a été fait par les apprenants de la Croix-Rouge pour la publication d'une vingtaine d'exemplaires pour le moment, parce qu'ils ont tout fait eux-mêmes. Et donc là, c'était avec l'aide de l'association des Amis du Livre et de la Reliure. On est vraiment sur un projet complet mené par ces personnes qui non seulement ont dû apprendre à écrire, à lire leurs textes, mais en plus ont vraiment participé à la conception du projet dans son ensemble. C'est quand même assez admirable.
Une exposition qui est le point d'orgue d'un travail réalisé depuis plus d'un an. Écoutez Odile Requillard, référente illettrisme à la Croix-Rouge.
C'est le résultat de tout un travail depuis début 2024. Nous avons engagé un projet d'écriture avec les personnes que nous accompagnons qui sont en situation d'illettrisme. Nous leur avons permis d'écrire un ou des textes, les textes qu'ils voulaient, sur les sujets qu'ils voulaient. Ensuite, on leur a proposé des ateliers d'illustration avec une artiste, Gabrielle Embrim, qui a permis d'illustrer les textes, inspirés de leur vie, de leur passion, de leurs inquiétudes aussi, parce qu'ils ont écrit au moment des émeutes, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes qui surgissaient aussi. Voilà, ils ont parlé avec leur cœur.
Une exposition qui est à découvrir jusqu'au 20 septembre à la bibliothèque Bernheim, rue Anatole France. Il est 18h et pratiquement 2 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello, rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Jusqu'au vendredi 19 septembre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs, logé 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton Deva. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 19 septembre à 14h. 371 francs par SMS, ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ses restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
18h03, la suite de votre journal avec Lionel Sabot.
L'actualité en métropole, il s'agissait sûrement de sa dernière visite dans son costume de ministre de l'Intérieur. La nuit dernière pour nous, Bruno Retailleau était à Clermont-Ferrand, longtemps perçue comme une ville paisible, aujourd'hui rattrapée par une explosion de la violence sur fond de narcotrafic. La lutte contre les trafics de drogue, cheval de bataille, on le sait, du ministre depuis son arrivée, place Beauvau, et cela jusqu'au bout, a-t-il promis aux habitants de la ville. Jean-Baptiste Marty a suivi ce déplacement pour Europe 1.
Au milieu des immeubles vétustes, Bruno Retailleau est interpellé par un pharmacien démuni depuis l'arrivée des dealers.
De la nuisance non-stop, c'est, forcément c'est invivable après.
On va régler ça.
Et on espère.
Il faudra du temps, il faudra un peu de temps, mais on va le régler avec des nouveaux moyens, une nouvelle stratégie. On le fera.
C'est ce qu'il faut nous libérer.
Oui, oui, exactement.
Bruno Retailleau se projette, il balaye toute question sur la probable chute du gouvernement. Pour le ministre de l'Intérieur, une seule préoccupation, lutter contre le narcotrafic. Pour cela, 22 enquêteurs et une centaine de policiers sur le terrain vont être envoyés en renfort. Des mesures saluées par les riverains. Une petite victoire pour le locataire de Beauvau à la tête du ministère de l'Intérieur depuis 8 mois et qui a tenu à rassurer sur la continuité de l'action engagée.
Les ministres passent, les préfets demeurent, les gendarmes, les procureurs. C'est la continuité de l'État. Ces décisions, elles sont prises. Il n'y a pas d'autre besoin dans le futur de signature pour qu'elle soit exécutée.
Même si Bruno Retailleau venait à quitter la place Beauvau dans les prochains jours, il en est convaincu, son travail entamé se poursuivra. Jean-Baptiste Marty, Clermont-Ferrand, Europe 1.
Bruno Retailleau qui prendra la parole dans quelques heures à Port-Marly, c'est dans les Yvelines, près de Paris, cette fois-ci en tant que président des Républicains. Le parti fait sa rentrée politique ce week-end, à 2 jours du vote de confiance qui devrait précipiter la chute de François Bayrou. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
3500 personnes attendues sur l'ensemble du week-end, tous les ténors du parti rassemblés. La droite prépare sa démonstration de force à Port-Marly pour son premier grand événement depuis l'élection de Bruno Retailleau. Loin des récentes divergences sur le vote de confiance, le parti veut accorder ses violons, montrer qu'il peut réunir plusieurs nuances politiques. Parmi les invités, notamment le maire de Béziers, Robert Ménard, ou encore la députée Maude Bréjon. Et l'objectif est clair, ouvrir une nouvelle page, celle de Bruno Retailleau à la tête du parti pour défendre la France des honnêtes gens. Toujours est-il que le contexte politique devrait s'inviter dans le discours de clôture du ministre de l'Intérieur. Selon nos informations, une réponse à Laurent Wauquiez sur la question épineuse de la censure est notamment prévue. Un discours dans lequel Bruno Retailleau devra par ailleurs afficher l'unité de la droite et se poser en unique leader du mouvement. Ça va être glacial entre les ténors du parti, anticipe un conseiller qui nuance, mais les militants sont venus de partout pour voir leur nouveau président. Pas de risque que les querelles internes gâchent la fête.
Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et tandis que les socialistes se voient déjà à Matignon, le numéro 2 des Républicains prévient « Nous censurerons immédiatement un gouvernement PS », dit François-Xavier Bellamy dans les colonnes du Figaro. L'Union européenne doit impérativement arrêter ses pratiques contre les entreprises américaines. L'avertissement de Donald Trump après l'amende infligée à Google, amende de 3 milliards d'euros, annonce faite par la Commission européenne ce matin. Commission européenne qui reproche aux géants américains d'avoir abusé de sa position dominante dans le secteur de la publicité en ligne. Une sanction injustifiée, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui prévient « Si l'Union européenne ne fait pas marche arrière, il ripostera à travers des sanctions commerciales et des droits de douane punitifs ». Le président américain, qui s'est aussi exprimé au sujet des otages retenus à Gaza au 700e jour de guerre entre Israël et le Hamas, il affirme que des négociations sont en cours avec l'organisation terroriste, alors que 47 otages sont toujours retenus, selon l'armée israélienne. Hier, le Hamas a publié une nouvelle vidéo où l'on voit 2 otages en vie, vraisemblablement dans la bande de Gaza. Frédéric Simon pour Europe 1.
L'objectif du Hamas est clair, choquer les proches des otages et au-delà l'ensemble de la société israélienne, de manière à ce que la pression populaire finisse par convaincre le gouvernement de renoncer à l'extension des opérations militaires dans la bande de Gaza. Seuls de courts extraits de l'une des 2 vidéos ont été autorisés à la diffusion par les proches de l'otage en question. Il s'agit de Guy Gilboa Dalal, un jeune homme de 22 ans. Dans les passages diffusés, on le voit supplier pour sa libération. La famille du second otage, Alon Noël, 24 ans, n'a pas permis la diffusion de la vidéo. Ses proches ont affirmé qu'il y était méconnaissable et qu'il avait visiblement perdu l'usage de l'un de ses yeux. L'émotion est d'autant plus grande en Israël qu'un cap a été franchi hier, celui du 700e jour de la guerre, initié par l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. C'est le conflit armé le plus long de l'histoire du pays et il n'est pas prêt de s'achever. L'opinion publique est d'autant plus inquiète que les hauts gradés de l'armée ne cachent pas que la nouvelle phase de la guerre risque de s'avérer fatale pour une partie des 20 otages considérés comme étant encore en vie. Inquiétude accentuée par les toutes dernières déclarations de Donald Trump. Le président américain a affirmé qu'il craignait que plusieurs otages aient récemment perdu la vie.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 en Israël. En bref, on devrait en savoir plus cette nuit au sujet de l'accident du funiculaire qui a coûté la vie à 16 personnes mercredi à Lisbonne. Les autorités portugaises publieront les premières constatations. 11 étrangers figurent parmi les victimes, dont une touriste française. Et puis l'actualité dans la région Pacifique, à Tokyo, où elle participait à la 12e réunion interministérielle anglo-nippone des responsables de la diplomatie et de la défense. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a fustigé les efforts de déstabilisation de la Chine dans le Pacifique. Correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Prenant la parole en présence des ministres japonais de la Défense et des Affaires étrangères, Penny Wong a déclaré que, je la cite, « l'Australie et le Japon sont confrontés à une situation stratégique très difficile dans le Pacifique ». Faisant une allusion à peine voilée aux manœuvres déstabilisatrices de la Chine dans la région, elle a ajouté que, je la cite encore, « le Japon et l'Australie partagent des valeurs et une confiance mutuelle qu'il importe d'approfondir. Nous partageons une vision commune », a-t-elle ajouté, celle d'une région pacifique stable et prospère où la souveraineté de tous les pays est respectée. Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour y parvenir, a-t-elle insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h10, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là! Encore plus belles, encore plus goûteuses, avec un parfum unique et une qualité exceptionnelle. Ce week-end, on se donne tous rendez-vous aux fraisiers de Païta. Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là!
Les fraisiers de Païta, 3 points de vente au 6e kilomètre, aux fraisiers de Païta et en face de la pharmacie de Sainte-Marie.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et 18h10, RRB, la suite de votre journal avec Lionel Sabour.
Et nous allons parler football, puisque l'équipe de France a débuté parfaitement sa campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2026. Victoire 2-0 des hommes de Didier Deschamps contre l'Ukraine. Bussinier, Mikael Olysee et Kylian Mbappé, Mikael Gineski.
Oui, les Bleus qui ont dominé l'équipe d'Ukraine, particulièrement en première période. Les Français ont marqué dès la 10e minute grâce à Mikael Olysee, très performant tout au long de la rencontre. Les vice-champions du monde ont doublé la mise grâce à Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, auteur de son 51e but en bleu. Il égale Thierry Henry et pointe désormais à la deuxième place ex aequo du classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé qui se réjouissait d'avoir parfaitement lancé la campagne de qualification pour la Coupe du Monde.
On joue contre une équipe compliquée. En deuxième mi-temps, il y a eu un moment de flottement dans notre camp pendant 10-15 minutes. Mais je pense qu'on a quand même maîtrisé la rencontre et on a réussi à repartir avec les 3 points, ce qui était l'objectif pour donner une bonne dynamique dès le début à ce groupe de qualification.
L'attaquant de Liverpool, Hugo Ekitike, et le milieu offensif de Monaco, Amiens Akliouch, ont décroché, eux, leur première sélection. Selon au tableau, Ousmane Dembélé, entré en jeu en deuxième période, est sorti sur blessure en raison d'une douleur à la cuisse.
Et l'équipe de France qui affrontera l'Islande, ce sera mercredi matin pour nous au Parc des Princes. L'Islande qui s'est imposée 5-0 ce matin face à l'Azerbaïdjan. La reprise du top 14 ce week-end, c'est l'élite du rugby français qui retrouve les pelouses pour le coup d'envoi du championnat de France qui suscite de plus en plus d'intérêt. Le grand favori Toulouse a remporté le bouclier de Brennus pour la 3e fois consécutive la saison dernière. Oui, mais l'Union Bordeaux-Bègles battue en finale apparaît toujours comme un concurrent très sérieux. Stéphane Place pour Europe 1.
La rentrée d'abord ici cette semaine pour les jeunes de l'école de rugby de l'UBB et la reprise du top 14 ce week-end face à La Rochelle. Ces supporters de Bordeaux-Bègles ne cachent pas leur impatience.
Bien sûr, je suis heureux parce que le top 14, c'est des gens qui sourient, qui sont respectueux dans les tribunes, c'est super.
Ça m'a manqué, les discussions avec les copains, voir les matchs et de se retrouver avec l'émulsion amicale qui va avec ça.
Je suis très content que ça redémarre. En plus, l'UBB à La Rochelle, une belle affiche.
La rentrée que nous attendons tous avec impatience. L'effervescence, le challenge, puis l'ambiance. C'est
c'est quand même quelque chose, c'est une famille. Hein.
D'autant que ce championnat réserve toujours des surprises, insiste Didier, qui soutient l'UBB depuis des années.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser dans ce championnat où il y a quand même des budgets assez disparates, il y a un vrai suspense. On y croit et il y a plusieurs lectures de jeu, les deux premières places, les six premières, la relégation. Ouais, il y a plusieurs championnats dans le championnat.
Signe de cet engouement pour le top 14, l'UBB jouera ce week-end contre La Rochelle son 25e match consécutif à guichet fermé. Et par rapport à la saison dernière, le club enregistre une augmentation d'environ 30% du nombre d'abonnés. Bègle, Stéphane Place, Europe 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec ce week-end la 16e manche du championnat du monde. Pilotes et écuries sont en Italie sur la piste mythique de Monza. La Scuderia Ferrari court évidemment à domicile et des milliers de tifosi sont présents pour encourager les pilotes de la marque au cheval cabré. Un engouement qui marque, vous allez l'entendre, Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui courent pour la première fois au volant d'une Ferrari à Monza.
J'ai vécu une expérience unique. Il y a des supporters devant l'usine, je n'avais jamais vu ça avant. Ils portent tellement d'amour pour Ferrari, ça apporte beaucoup de positifs. Donc j'essaie de garder en moi leur énergie.
C'est juste fou, enfin on a beaucoup de soutien de partout où on va en tant que pilote Ferrari et on a énormément de chance et je m'estime énormément chanceux d'être pilote pour ce team. Mais quand on arrive à Monza, c'est juste un step au-dessus et ça fait chaud au cœur de savoir que même dans la difficulté, les tifosi sont derrière.
Et après un double abandon la semaine dernière lors du Grand Prix des Pays-Bas, Hamilton et Leclerc vont devoir se reprendre devant leur public. À suivre ce soir et tôt demain matin pour nous la troisième et dernière séance d'essais libres et la séance de qualification qui déterminera bien sûr la grille de départ de ce Grand Prix d'Italie.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport mécanique encore avec la MotoGP, 15e rendez-vous de la saison en Espagne, le Grand Prix de Catalogne, qualification et sprint race à suivre ce soir. La course sera demain à 23h, heure de Nouméa. On en vient, Michael Juneski, au sport sur le territoire avec du football et les quarts de finale de la Super League.
Et aujourd'hui, l'ASC Gaïcha qui a décroché sa place pour le dernier carré au bout du suspense face à l'AS Lossi. Les joueurs de Gaïcha l'ont emporté sur le score de 3-2 à l'issue de la prolongation. En ce moment même, toujours sur la pelouse du stade Noumadélé, l'AS Magenta affronte Yengen. Demain, à partir de midi, Tigasport retrouvera l'AS Cougné.
Les passionnés de chevaux s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui du côté de Boulou-Paris.
La 8e et avant-dernière réunion de la saison des courses hippiques et notamment le Grand Prix de la Province Nord qui aura donné lieu à une belle bataille. Nous avons fait le point avec Nicolas Schneider, le président de la Fédération des courses hippiques.
Bah écoutez, on a eu un dénouement magnifique. Voilà, un très beau vainqueur, Daring Choice, le cheval de Carole Roy, monté par Julien Magnez, qui l'a emporté au bout d'une ligne droite dantesque à la lutte avec Harry Potter et son camarade d'écurie Storm Dancer. Un cheval qui, ma foi, méritait d'être récompensé puisqu'il avait terminé second de cette même épreuve il y a 2 ans. Il revient en plus en ayant été mis à l'entraînement tardivement par son propriétaire parce que c'est un vrai stayer, c'est un vrai cheval de distance. Le programme qui est concentré en Nouvelle-Calédonie avec 9 journées ne permet pas d'avoir forcément des courses pour ces chevaux qui s'expriment sur des longues distances. L'histoire est belle, c'est magnifique que Daring Choice remporte pour ce petit propriétaire, parce que j'aime à dire petit propriétaire, hein, Carole Roy qui a emmené aujourd'hui 3 chevaux sur l'hippodrome et qui repart au final avec 2 victoires. Et c'est de bon augure pour des petites écuries qui ont besoin effectivement de venir chercher des gains et de l'émotion pour faire perdurer cette passion autour du cheval.
Côté public également, il y avait notamment la présence de professionnels néo-zélandais.
Oui, effectivement, donc la présence de Ian Fraser hein, de New Zealand Bloodstock, qui est une société de mise en relation de vente de chevaux en Nouvelle-Zélande. C'est toujours important pour nous, Nouvelle-Calédonie, parce que j'aime à le dire, on est proche de 2 nations qui sont puissantes en termes d'élevage et en termes de système course. Et c'est toujours important de tisser des liens avec ces partenaires qui peuvent nous aider à grandir et à faire progresser nos élevages et partager cette même passion autour des courses de chevaux.
Nicolas Schneider, président de la Fédération des courses hippiques. La dernière réunion de la saison 2025, ce sera dès le week-end de prochain en point d'orgue. Le Grand Prix du gouvernement sur l'hippodrome Banu de la Foix.
Et dans le Lagon, Michael, la No Woman No Sail qui continue tout au long de ce week-end.
La 14e édition d'un événement organisé par l'association Défi des filles, réservé aux féminines. Près de 80 participantes en lice, 16 équipages. Ça assure également la promotion de la voile chez les féminines. Événement qui continue demain au large de la Côte Blanche.
Et nous terminons ce journal avec la météo.
la météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Jennifer.
Merci. Alors, nous sommes en vigilance jaune, vent violent samedi soir de Cahal à Gomène à Bélep et de Wailou à Yaté pour un vent de sud à sud-sud-est atteignant 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds, donc 65 km/h. Puis dimanche après-midi de Poya à Bélep ainsi qu'au Loyauté pour un vent de sud-est dépassant 25 nœuds, rafales 40 nœuds, 75 km/h. Vigilance jaune, forte pluie, orage au Loyauté dans la nuit de samedi à dimanche pour des averses orageuses. Petit aperçu pour cette nuit, une bande nuageuse et pluvieuse traversera le pays et apportera des averses parfois soutenues, plus particulièrement sur le sud-est, puis au Loyauté où le tonnerre se fera entendre. L'extrême nord reste relativement épargné avec de rares averses et un ciel passagèrement nuageux. Sur le nord-ouest et au Loyauté, le vent de sud de 20 à 25 nœuds en soirée, mollit entre 5 et 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il tombera souvent autour de 10 nœuds. Les températures minimales sont en baisse, elles aussi entre 16 et 20 degrés. Voilà, Lionel.
Merci beaucoup, Jennifer. Il est 18h19. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Il sera disponible d'ici quelques instants sur notre site internet, le www.rrb.nc. Nous, on se retrouve à 19h pour un dernier point sur l'actualité. Excellente soirée, bon week-end.